Rodolphe Bringer, Les quatre femmes de l'escalot. En arrivant à Canterberlus ce matin-là, je m'inquiétais de ce brave l'escalot et je me promettais de prendre une petite demi-heure sur mes affaires pour voir un peu s'il avait enfin trouvé la paix, la quiétude et la tranquillité, à défaut du bonheur qui, hélas, n'est pas de ce monde. L'escalot est un vieil ami à moi, il n'est plus tout jeune. Nous avons fait nos 28 jours ensemble et c'est à partir de cette époque que je me suis lié avec lui d'une bonne et durable amitié. Il faut vous dire que l'escalot est peut-être le plus riche propriétaire de Canterberlus qui ne compte que des propriétaires cossus. Ses parents lui avaient laissé une jolie fortune en terre et en écus et l'escalot, qui n'est ni manchot ni fainéant, avait encore accru, les unes comme les autres, et aussi à peine la quarantaine avait-elle sonné pour lui, qu'il s'était retiré des affaires. Il avait pris des métayers pour s'occuper de ses terres, ne gardant que quelques vignes, une truffière et un jardin, histoire de ne pas rester comme cela les bras croisés. Il habitait aux portes de Canterberlus, autant dire une de ces maisons moitié ferme, moitié villa, avec terrasse abritée par un auvent que soutiennent des colonnes rustiques et où l'on parvient par un escalier tout fleuri de cocourdiers. Vous voyez cela d'ici? Eh bien, et il faut tout de même que je vous le dise, cet homme qui avait, comme on dit, le pain et le couteau, n'avait jamais été heureux, et cela à cause des femmes. Oh, ce n'était pas que l'escalot fût un de ces amateurs de femelons, comme il s'en rencontre tant et tant dans notre beau Fricastin, et qu'il passa ses jours et surtout ses nuits à courir la prétentaine. Non! L'escalot était un homme d'intérieur, un homme sage, qui ne voulait trouver sa joie et son plaisir que dans le mariage. Aussi, à peine sorti du régiment, s'était-il mis en ménage, épousant la fille d'un voisin, cette petite Clara Bédig, qui était, à ce que je me suis laissé dire, la plus jolie fille de Canterberlus et des lieux avoisinants. Il l'avait épousée pour sa beauté et pour son savoir-faire, car on la vantait partout comme une bonne et brave petite ménagère, s'entendant aussi bien aux soins de son intérieur qu'à ceux de sa basse-cour. Et, ma foi, sans doute eût-il trouvé en elle la pionie s'il ne s'était rencontré, que cette petite Clara se révéla, ma foi, au lendemain de ses noces, la plus satanée paillarde qui se puisse voir. Que voulez-vous, ce pauvre escalot fut cocu. Cocu autant que peut l'être l'homme de France. Et cela n'eût rien été si l'escalot n'eût pas connu son infortune. Mais un soir, qu'il s'en venait voir si les mulets avaient leur provende pour la nuit, ne découvrit-il pas, dans la finière, sa Clara qui s'en faisait compter par Charlot, le garçon de ferme? Qu'eussiez-vous fait à sa place? Cet incident déplorable, lui ayant ouvert les yeux, il ne tarda pas à apprendre que Clara le trompait à bouche que veux-tu, et, ma foi, il demanda le divorce et l'obtint. Vous vous dites, braves gens, qui ne lisaient qu'une si désastreuse expérience, il dut faire naître en lui la méfiance. Bien oui, mais je vous l'ai dit, notre escalot n'était pas fait pour la vie de garçon. Il fallait un foyer et une femme assise devant. Aussi, à une année de là, il se remaria, épousant cette fois une fille de Gonfle-Bouffigue, qui avait une assez jolie dot et sur laquelle, à ce qu'on lui assura, il n'y avait pas cela à dire. « Il serait tout de même extraordinaire, se dit l'escalot, que celle-là aussi me fasse cornard. » Hélas, elle ne le fit pas cornard, cette Mélanie, mais je crois bien que ce fut pire. Elle buvait, la malheureuse. Oui, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Quand on la venait voir, bonne âme, elle débouchait la bouteille de vin, cuit, ce coulounant ou d'autres voix. Et ma foi, comme elle était assez gourmande, les visites parties, Elle finissait la bouteille. Ce qui fait que, quand ce pauvre Lescalot entrait le soir, il trouvait sa femme affalée dans un coin de la cuisine et cuvant ses alcools. Et rien ne put la corriger. Au contraire, plus ça allait, plus elle buvait. Maintenant, elle n'attendait même plus les amis et se pochardait toute seule. Tant et si bien qu'un jour, que sans doute elle avait bien bu plus que de raison, elle se noya dans le grand bassin de la grange. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'escalot ne la pleura que tout juste ce qu'il était décent de le faire pour ne pas passer pour un sans-cœur. Et ses amis, dont j'étais, se dirent « Bon, cette fois, je pense qu'il va en avoir assez du conjungout. Hein, what ? Qui ne vous a pas dit que tout juste 8 mois après, cet animal de l'escalot épousa la veuve Mounine ?» Une belle femme, cette veuve Mounine. La trentaine est solide à faire plaisir. Ce qui avait surtout charmé l'escalot, c'était sa réputation de femme économe. Pour cela, il n'y avait qu'un cri à Saint-Christol d'où elle venait. Mariée en première noce avec un petit maçon de rien du tout, elle était arrivée, à force d'entendre des affaires et d'économies, à amasser une petite fortune. Et pour la sobriété, elle ne buvait que de l'eau. Bah, avec celle-là, se dit l'escalot, je serais peut-être tranquille. Et ma foi, il l'eût été, si économie n'était pas synonyme d'avarice. Car Trésette, à peine eut-elle pris la direction de la maison, se révéla d'une avarice à tondre un œuf pour en vendre la peau. Oh, ce fut terrible! L'escalot ne put plus aller au café prendre son apéritif comme il en avait l'habitude, plus de ses bons dîners qu'il offrait aux amis. Et cela n'eût été rien si Trésette ne l'avait forcé à vendre le bon vin de ses vignes et à boire de l'eau, à ne pas manger une seule truffe de ses truffières afin d'accroître le revenu de la ferme, et à ne se nourrir que de patates, de navets et de choux afin de restreindre la dépense de la maison. Ce pauvre l'escalot mena une vie de chien. Il maigrissait à vue d'œil, devenait jaune comme un coin, et sans doute eût-il fini par dépérir si par bonheur la Trésette n'eût pris les devants. Un soir de novembre, qu'elle avait passé la nuit dans l'oliveraie pour surveiller les malandrins qui, disait-elle, venaient lui marauder ses olives, elle prit un mauvais froid, s'alita et mourut. Bon débarras. J'avais été invité à ces obsèques, me trouvant dans le pays. Oh, mes enfants, quel dîner de funérailles! L'escalot se rattrapait en un seul coup de ces 3 ou 4 rangs de jeunes. Et cette fois, j'espère que tu vas rester tranquille, dis-je à l'escalot en le quittant. Et lui, moitié figue, moitié raisin, de me répondre. Oh, tu parles après tant d'épreuves! Aussi, en arrivant à Canterbury ce jour-là, je me disais que j'allais trouver un escalot brillant de santé, luisant de bonheur, ayant enfin trouvé, après tant de vicissitudes, le repos et le calme qu'il méritait bien. Ah, mes pauvres amis! Quand j'arriverai au logis de mon vieil ami, au lieu de rencontrer sa bonne figure toute réjouie, ce furent des étrangers qui m'accueillirent. « L'escalot n'est point là ? » demandai-je. « Oh, l'escalot, mais il n'habite plus ici. Comment ? » « Vous ne saviez donc pas. Mais il est ruiné, l'escalot. Il doit être à 7 heures domestique à Nice, dans quelque hôtel. » « Est-ce possible ? » m'exclamai-je. « Oh, c'est la vérité pure, mon bon monsieur. Ce pauvre escalot avait épousé une jeune femme de Rubionas, coquette dépensière, qui, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, vous l'a mis sur la paille. Avec ça qu'elle le trompait avec tous les chiens coiffés qu'elle rencontrait, qu'elle faisait des bons vents, ça y perdre la raison, et qu'elle le battait comme plâtre. Puis quand il a plus eu un sou, ben elle est partie avec un chanteur de café-concert. Oh, le pauvre homme a dû quitter le pays. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites de celle-là? J'espère bien qu'après ce coup, l'escalope doit être dégoûté du mariage.